Donc à la prédication de ce matin. Merci. Nous allons prendre un moment pour considérer le récit que nous avons lu ensemble. La semaine que nous célébrons aujourd'hui était la semaine la plus horrible de l'existence humaine. Parce que ce vendredi saint, les hommes ont crucifié le Fils de Dieu. Ce week-end que nous célébrons, c'est le week-end le plus formidable de l'existence humaine. Parce que le Christ, par sa victoire à la croix, a changé la mort en vie. Et la mort humaine a été vaincue une fois pour toutes. Alors, nous allons juste prendre le temps de penser à ce qui se passe ce jour-là. Bien sûr, c'est un échantillon que Jésus donne pour nous faire comprendre sa puissance en tant que ressuscité, la puissance de la résurrection. Et vous comprenez bien que la résurrection de Lazare n'est pas une résurrection comme celle de Jésus, parce que Lazare est mort après sa résurrection. Jésus l'a ressuscité, mais pas en lui donnant une vie impérissable. Il a retrouvé simplement la vie mortelle et périssable qu'il avait avant. Il n'y a que au moment de la résurrection de Jésus qu'un homme existe qui a maintenant une vie qui ne peut plus mourir. Jésus est ressuscité avec une vie qui en elle-même est au-delà de la mort. Donc, je vais vous dire certaines choses très simples aujourd'hui et je veux qu'on arrive à la fin du message, au nœud du problème. Premier point. Cette vie sur la terre n'est pas ce qu'elle était censée être. Nous le voyons dans les événements de ce jour. Quelle heureuse famille! Marthe et Marie et Lazare, nous les connaissons dans les évangiles. Nous savons que c'était deux sœurs et un frère très soudés. Tous des croyants, particulièrement proches à Jésus-Christ et qui avaient souvent du monde chez eux. Mais voilà cette scène. La vie humaine n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Parce que maintenant, nous sommes au milieu des pleurs, du deuil, des grincements de dents, tout est fichu, pour ainsi dire. Quel désastre, quelle catastrophe. Et ce jour, je l'ai vécu plus d'une fois dans la situation de ma famille et il y a des bonnes chances que vous l'avez déjà vécu aussi. Sinon, vous allez vivre de tels jours, ou cet appel téléphonique horrible et terrible qui vous terrasse vient et un proche que vous aimez de tout cœur n'est plus de ce monde. Et vous êtes plongé aussi dans la même scène que ces personnes-là. Deuxième point. Néanmoins, cette vie sur la terre contient beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit, cette famille avait vécu de moments formidables ensemble. Nous les retrouvons en Luc chapitre 10 avec Jésus là, tout le monde est là, ils écoutent le Seigneur qui enseigne. Il y avait tellement de bonnes choses, et vous aussi. Donc pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand je vous parle dès le début de la mort, ce n'est pas pour dire que il n'y a aucun reste du bien que Dieu a voulu pour ce monde. Dieu a voulu qu'il y ait, malgré la chute de l'homme, notre détournement de Dieu et la mort, qu'il a voulu nous conserver de plein de choses bonnes, comme un témoin pour lui. La Bible en parle exactement dans ce sens dans le livre des Actes. Vous aussi, vous avez eu beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Beaucoup de bons moments avec des amis, avec la famille, des bénédictions de toutes sortes. Troisième point. Pourtant, l'ombre de la mort plane sur cette vie ici-bas et la réalité de la mort rend cette vie, malgré son bonheur, rend cette vie vaine et tragique en fin de compte. Toute personne que vous ayez jamais connue termine le bonheur de cette vie dans l'horreur de la mort, qui est une fin brutale et violente et non voulue à tout le bonheur que vous avez ici-bas. Et c'est pour cela que l'Ecclésiaste dit ceci: ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous, et ça veut dire vous aussi, le jour viendra si le Seigneur ne revienne, tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, la folie dans le cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Vous et moi, nous allons vers les morts. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri vis-à-vis de ce monde et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. L'ombre de la mort et la réalité de la mort qui rend cette vie vaine, de sorte que l'Ecclésiaste dit à répétition dans son livre au sujet de cette vie sur terre, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que j'ai eu de bien, je perdrai complètement et cruellement par la mort. Quatrième point. Donc la mort est une horreur et un ennemi juré de l'homme et de Dieu. Nous lisons dans le récit que quand Jésus vit qu'elle pleurait, Marie, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Le même mot frémir, le même mot en grec, se retrouve plus tard dans le récit. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. Il est très difficile en français de traduire ce mot grec. C'est le même mot qu'on utilise en grec pour décrire un cheval quand il est en colère, quand il frémit. Alors, Jésus est en colère. Il est en colère contre la mort. Il est en colère contre ce que la mort fait à Marie, aux Juifs, à ceux qui ne croient plus, à ce qu'ils ne pensent que Jésus n'aurait pas pu empêcher cet homme de mourir. Et tout le monde est dans cette catastrophe de la mort, de la tristesse, de l'incrédulité. Et Jésus frémit, c'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses pour l'homme qu'il aime. Donc la mort, sachons-le bien, est un ennemi de Dieu. Car il faut qu'il règne Jésus jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cinquièmement, c'est nous les hommes qui ont amené la mort, cet ennemi, dans l'existence par notre révolte contre Dieu. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que je vois vos visages. À part deux chers visiteurs, et bienvenue à vous. Je sais que vous comprenez cet enseignement et je me doute que vous aussi. Mais je vais quand même vous donner deux versets. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort vient en tant que salaire. Nous l'avons mérité, nous avons bien travaillé en nous détournant de Dieu et nous avons eu notre salaire. Car puisque la mort est venue par un homme, non par le décret originel de Dieu, le dessein originel de Dieu pour la création, mais la mort est venue par un homme. Je ne vais pas entrer plus dans cela. Mais sixièmement, la mort est donc une puissance de ténèbres et elle nous fait croire un double mensonge sur Dieu, un double mensonge qui est infernal et périlleux pour nous et notre avenir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi Jésus, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est le diable. C'est nous qui lui avons remis ses clés. La mort est un jugement. L'agent du jugement, c'est le diable. Mais le diable est appelé le père des mensonges. Et par la mort, en exerçant ce pouvoir de la mort dans l'existence humaine depuis des siècles et des siècles, Satan fait mourir les gens, oui aussi, mais il donne l'impression de quelque chose qui n'est pas vrai. Il donne l'impression que le Dieu qui a fait ce monde n'est ni très aimant, ni très puissant. Quand vous voyez, quand les gens autour de vous, quand les gens qui ne sont pas croyants, quand ils sont devant la mort, la mort, la mort, la mort, est-ce qu'ils ne disent pas « Non, il n'y a pas de Dieu bon ». Il n'y a pas de Dieu puissant. La mort fait partie des ténèbres. Et les ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres font? Les ténèbres, leur propre, c'est de nous faire perdre de vue quelque chose qui est là. N'est-ce pas? Lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne voit plus. Et il y a un double mensonge qu'on ne voit plus le pouvoir et la pitié aimant de Dieu. Et quand vous mettez ensemble le pouvoir et la pitié de Dieu, ça égale à quoi? Ça s'appelle la gloire. Si vous êtes à un lac un jour et il y a quelqu'un qui commence à se noyer, s'il y avait un maître nageur qui est puissant, mais qui n'a pas de pitié pour cette personne, et qui le voit et qui ne fait rien, il n'est pas très glorieux comme maître nageur. Il n'y a pas de gloire. Parce qu'il a le pouvoir, mais pas la pitié. Si vous, vous êtes là, et vous avez beaucoup de pitié, mais vous n'avez pas du tout le pouvoir de sauver cet homme, vous n'êtes plus, non, vous n'êtes pas très glorieux dans cette situation non plus. Vous n'avez pu rien faire. La gloire, c'est quand il y a pitié immense et pouvoir immense ensemble. Ô Dieu de pitié immense et de pouvoir immense, toi tu es glorieux. Donc, il y a ce double mensonge dans le monde et je veux vous faire voir ce jour-là chez Marthe et Marie comment les gens sont en train d'être affectés par la mort pour croire à ces mensonges. Premièrement, regarde comment ils doutent de la providence de Dieu. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez le doute? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? On a envoyé lui dire que Lazare était mort, Lazare était malade. Et lorsque Marie fut arrivée quelques moments plus tard, sans avoir entendu sa sœur, elle dit exactement la même phrase au début. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, où qu'elle le vit, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et combien de gens disent de pareilles choses devant la mort? Oh, si seulement telle chose n'avait pas été comme ça. Il ne serait pas tombé malade. Il ne serait pas mort. S'il n'était pas sorti ce soir-là sur sa moto, s'il n'était pas sur cette route à ce moment-là, oh, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et en doute, il doute de la providence de Dieu. Or, nous avons lu au début du passage que quand Jésus apprit que Lazare était mort, il dit, Lazare était malade, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et lorsqu'il a entendu, il a resté encore 2 jours où il était, exprès. Parce qu'il ne voulait pas donner à Marthe et Marie la guérison de leur frère. Il voulait leur donner la résurrection de leur frère. Mais eux, ils ne voient pas les Juifs. Elles ne voient pas les sœurs. Elles doutent. Elles se demandent. Et la mort nous met dans cette situation, n'est-ce pas? Deuxièmement, douter de l'amour de Dieu. Jésus, devant les Juifs et tout le monde dans le deuil, commence à pleurer. C'est le verset le plus court dans la Bible. 2 mots. Jésus pleura. Avez-vous vu un homme adulte et mûr pleurer en public? L'avez-vous souvent vu? Mais moi, je veux dire, sans retenir, vraiment pleurer, pleurer. Celui qui est Dieu lui-même et qui manifeste comment Dieu est dans une forme humaine, pleura, pleura, pleura. Les Juifs dirent donc, et regardez ceci, le doute, regarde le doute, même devant, voyez comment il l'aimait, mais ils disent, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Il y a quand même le questionnement. Regarde, il semble qu'il aime, mais pourquoi s'il aime? Pourquoi permet-il qu'il y ait cette mort? N'est-ce pas? Et la mort fait venir sur nous un doute satanique, horrible, très faux, mais sur Dieu un visage qui est complètement faux. Et Satan s'en réjouit lorsque vous acceptez ce piège et lorsque vous vous mettez du côté de Satan et vous croyez le mensonge ténébreux que raconte la mort. Alors que Jésus pleura. La mort nous fait douter aussi de la puissance de Dieu. À la fin de la scène, ce jour-là, Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la pitié et le pouvoir. Mais quel doute! Comment est-ce que Jésus devait accueillir ces mots? Seigneur, c'est le quatrième jour. Mais il est la résurrection et la mort. Qu'il soit le quatrième jour, le quarantième jour, le quatrième année depuis la mort de Lazare, n'est-il pas le vivant? Mais la mort est tellement puissante, elle nous fait croire qu'il n'y a aucune puissance comme celle de la mort. Nous croyons que quand quelqu'un est mort, ça y est, c'est fini. Donc nous pouvons voir ce jour-là qu'il y a l'œuvre de la mort dans les amis, dans la famille. Oh, si tu avais été là, oh, mais c'est le quatrième jour, oh, n'aurais-tu pas pu empêcher? Et la mort nous fait croire plein de choses et nous cache tout simplement la gloire de Dieu que nous aurions dû voir. Septième point, et j'arrive vers la fin. La bonne nouvelle que Dieu nous envoie par la venue de Jésus gravite autour de la résurrection d'entre les morts. Et une vie éternelle qui sera immortelle. Est-ce que vous saviez que l'évangile, la bonne nouvelle, et précisément une nouvelle au sujet de la résurrection d'entre les morts. Nous, je pourrais vous donner beaucoup de versets. Quand Paul veut définir l'évangile, il parle toujours comme ça. Il parle de la résurrection. Mais je veux juste vous rappeler que vraiment, chers amis, résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire que la mort ne sera pas une finalité si vous êtes en Christ. Que vous ici, si vous croyez en Christ, le jour viendra où tout ce que la mort a pu prendre de vous, ou vos proches qui sont croyants, vous dérober, sera rendu et un million de millions de fois de plus. Nous lisons, dans ce verset dans l'Apocalypse, Jean a cette vision de ce qui vient. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Regardez ça. Et la mort ne sera plus. Et puis, il y a quelques détails secondaires. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça le sens de la résurrection. Une vie où la mort et le deuil et la maladie et le cri et la tristesse et tout ce que nous avons amené par notre péché ne sera plus. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il est extrêmement rare dans la Bible d'avoir une phrase comme cela. Parce que toutes les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Mais 4 ou 5 fois dans le Nouveau Testament, Dieu dit, ceci est une parole certaine et digne de confiance. Et là, il faut que vous croyiez, chers amis, tout ce que je viens de vous lire, parce que c'est certain et c'est véritable. Et c'est tellement immense que tous nos chagrins et même la mort ici devient tout petit devant cette vie de résurrection, de félicité parfaite qui n'en finit jamais. C'est ce que Dieu veut pour vous. Regardez ça. Paul dit, cette grâce donc du Christ qui s'est manifestée par la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité par la bonne nouvelle. Vous voyez le double mensonge qui parle là ? Les ténèbres ne peuvent plus cacher la réalité. Dieu est plein de pitié envers vous, être mourant, pauvre pécheur mourant, et il est plein de pouvoir pour vous ressusciter d'entre les morts. Jésus a réduit à rien la mort, il a mis en lumière pour qu'on puisse savoir la réalité. Il a mis en lumière quoi ? La vie et l'immortalité. Le plan de Dieu, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le chagrin. C'est la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie éternelle. Christ l'a mis en lumière. Jésus a même dit à un moment donné, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Et il parle de Satan. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ou bien, en Apocalypse, l'Esprit, l'Épouse, c'est-à-dire l'Église chrétienne, disent « Viens » à tous ceux qui sont parvenus à cette vie éternelle. Que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. La vie, la vie, la vie, gratuitement. Un dernier passage. Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est très simple ça, n'est-ce pas? C'est incroyablement simple. Le témoignage de Dieu, c'est qu'il vous a donné, il vous a offert la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais dans cette scène que nous considérons ce jour-là chez Marthe et Marie, Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Parce que Marthe avait dit, « Je sais que mon frère va ressusciter le dernier jour parce que les Juifs croyaient dans une résurrection générale. » Mais Jésus dit, « Non, la résurrection n'est pas un événement. » C'est pas un moment futur par certains principes impersonnels. La résurrection est une personne en qui réside seul, nulle part ailleurs dans l'univers, réside le droit de ressusciter un pécheur qui aurait dû mourir et le pouvoir de ressusciter le pécheur. Jésus dit moi-même. En vertu de ma résurrection, je suis la résurrection et la vie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est, il explique un peu, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort physiquement, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne parle pas de la mort physique ici, mais il parle dans le sens de la mort comme finalité, mort spirituelle et finale. Mais regarde ce mot. Jésus dit à Marthe, et il n'y a que Marthe, c'est Marthe et Jésus. Peut-être il y a quelques Juifs qui l'ont suivi, mais la conversation est personnelle et privée. Et pourtant, Jésus dit à Marthe, quiconque. Il a un message qui, il doit le dire comme ça, parce que c'est tellement dans son cœur que ce message te dépasse, Marthe, je suis obligé de te le dire. Même si tu es tellement triste, tu n'entends pas le mot quiconque aujourd'hui. Pour tout le reste de l'histoire, les gens le sauront. Quiconque vis et crois en moi ne mourra jamais. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus parle de cette résurrection et cette vie éternelle, cette offre merveilleuse, et il doit utiliser ce mot quiconque? Alors, quand on utilise le mot quiconque, c'est parce qu'on veut ouvrir grande la porte et on veut faire savoir, allez, allez, venez. Dans mon pays, à un moment donné, on a ouvert la frontière ouest, jusqu'en Californie. Et on voulait que les gens viennent en Californie. Il fallait du monde pour établir cette partie du pays. Et apparemment, peut-être c'est pas exactement comme je vous le dis, mais il y avait des choses comme ça. On publiait des petits bulletins qu'on distribuait qui disaient « Venez vous établir en Californie. À quiconque vient en Californie, vous recevrez 20, 40 hectares de terrain gratuit. » Mais pourquoi est-ce qu'on dit quiconque dans ces bulletins? Parce que on veut du monde. Parce que n'importe qui peut en bénéficier et on veut qu'ils soient nombreux. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus dit quiconque, il veut que vous bénéficiez de cette vie éternelle. Quiconque. La dernière chose que nous devons dire, et maintenant on nous la gerbe un peu, c'est que par sa mort à notre place pour nos péchés, Jésus a aboli la mort, il est devenu la source de résurrection, de vie éternelle, et il a démasqué le double mensonge que nous croyons à cause de la mort. Nous lisons dans Hébreux 2, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est curieux, mais la Bible enseigne que le Fils de Dieu devenu homme a détruit la mort par la mort. Il a détruit la mort, votre mort, par sa mort. » Ça nous semble un peu curieux au début, sauf quand nous arrêtons pour réfléchir. Ça se passe souvent comme ça dans la vie. Voilà un jeune homme qui a eu un accident. Il a perdu beaucoup de sang. Il va en mourir s'il n'a pas une transfusion de sang. Qu'est-ce qui peut le sauver de sa perte de sang? Seulement une perte de sang. Si vous perdez du sang, lui, il sera sauvé de sa perte de sang. Intéressant, n'est-ce pas? Si vous avez une dette et vous ne pouvez pas le payer, si je m'endette pour payer votre dette, vous êtes sauvé. Et vous comprenez la simplicité de l'Évangile. Que Christ prend sur lui notre mort, notre péché, notre culpabilité. Et il vit ça, il meurt, il subit, il encaisse, il goûte ce qui était à nous, afin que nous n'ayons pas à le goûter. Mais ce que nous voulons voir, c'est que ainsi Jésus déjoue le mensonge de la mort. D'abord, par rapport à la bonté de Dieu. Jésus manifeste de manière visible, palpable, concrète, sûre, certaine, l'attitude et le cœur de Dieu face à la mort. Est-ce que Dieu est pour la mort? Est-ce que Dieu est la source de la mort? Est-ce que Dieu veut votre mort? Quand Jésus vit qu'elle pleurait, quand Dieu, fait homme, vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, Viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et moi, je vous dis, voyez. Et voyez surtout sur la croix. Là où il y a mort. Christ, prends-le, votre mort. Et soyons-en certains de l'amour de Dieu. Je comprends la mort. Je comprends cette souffrance. Je comprends votre tentation de croire que Dieu n'est pas bon. Mais le Christ révèle la grandeur de son amour en face de la mort et dans sa mort à votre place. Voyez comment il l'aimait. Jésus révèle aussi son pouvoir sur la mort. Beaucoup de gens dans notre société ont l'idée, la notion que la mort, c'est la fin. Beaucoup. Ils pensent qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus de la mort. Quand tu meurs, tu n'existes plus, c'est fini. Ils exaltent la mort comme le roi de l'univers, comme un dieu. On parle d'un souhait de mort, mais là, c'est exalter la mort comme le plus grand pouvoir qui est. Mais les sœurs ont voyé dire à Jésus, Seigneur, et nous allons voir qui est Seigneur, si c'est vraiment la mort. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, soit montré comme plus puissant que la mort. Or, j'aime Jésus curieux. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours. Nous voyons Jésus tranquille. L'homme est mourant. L'homme est au seuil de la mort. Et Jésus reste tranquille là où il est. Laisse-le mourir. Et laisse-le rester. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans le tombeau pour que ce soit très clair. Que la mort a fait tout ce qu'elle pouvait sur cet homme. Et maintenant je pars et on verra. Il dit à ses disciples avant de partir, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Il se moque de la mort. En parlant en l'appelant un simple sommeil. C'est facile de réveiller quelqu'un qui dort, n'est-ce pas? Et pour Jésus, c'est ainsi, vis-à-vis de la mort. Mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. C'est-à-dire, il sera ramené de son sommeil, il va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là. C'est fort, n'est-ce pas? Je me réjouis d'avoir laissé mourir Lazare. Pourquoi? Afin que vous ne croyiez plus le mensonge, que la mort est la plus puissante. Afin que vous croyiez dans mon pouvoir sur la mort. Alors, arrivé au tombeau, Jésus commence à commander comme un seigneur, un maître. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir mon amour pour Lazare. J'aime cet homme. Et tu vas voir mon pouvoir. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Et je ne veux pas le faire. Et Jésus n'avait pas besoin de crier, mais il a crié. Je crois qu'il voulait exprimer. Il voulait qu'on sache qu'il est Seigneur. pitié jointe au pouvoir. Lazare sort et quelqu'un a dit avec beaucoup de... un peu malin, s'il n'avait pas dit Lazare, tous les tombeaux du monde auraient été vidés. Heureusement, il a précisé. Lazare sort et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandelettes. Je ne sais même pas comment il marchait. Ça devait être un peu rigolo si tout le monde n'était pas complètement époustouflé. Il sortit les mains, les pieds, les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, il commande encore, déliez-le et laissez-le aller. Combien j'aime ces mots, déliez-le et laissez-le aller. Parce que là, vous avez l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous dire, par rapport à vos péchés, votre culpabilité et la mort, il veut donner ce commandement, déliez-le et laissez-le aller. La seule question, c'est celle que Jésus a posée à Marthe et que je vous pose. Moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus vous dit, comme il l'a dit à Marthe, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque, ça veut dire si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Et la question, crois-tu cela? Nous allons chanter un chant de résurrection. Peux-tu appuyer deux fois sur l'interrupteur? Oui, merci.